Art, culture et patrimoine. Une émission présentée par Christelle de Limerville.
Le 21 décembre dernier, le père Henri le Dauphin retournait vers le père à l'âge de 94 ans. C'est en hommage à cette figure de Pontmain, ancien chapelain du sanctuaire, incomparable conteur de l'apparition, que nous vous proposons la rediffusion d'une rencontre avec lui. C'était en 2011, le père Henri le Dauphin m'avait reçu à la maison des Oblats où il résidait et il m'a raconté la vie de l'abbé Guérin, curé de Pontmain, au moment des apparitions de la Vierge Marie en 1871.
Je vous invite aujourd'hui à découvrir une figure mayennaise, peut-être un peu méconnue, celle de l'abbé Guérin, premier curé de la paroisse de Pontmain, durant près de 36 ans, décédé en 1872, un an après l'apparition de la Vierge. Afin d'évoquer la vie de l'abbé Guérin, nous sommes en compagnie du père Henri le Dauphin. Bonjour mon père.
Bonjour madame.
Vous connaissez bien le sanctuaire de Pontmain, vous y vivez depuis 25 ans, vous avez parlé, écrit, raconté sur ce lieu, sur l'apparition et sur notre abbé Guérin justement. Est-ce que vous voulez bien nous parler un peu de ce curé, pas comme les autres ?
Tout d'abord, tout jeune, en famille, étant né à Laval, il fréquentait le sanctuaire de Notre-Dame d'Avesnières. Et là, je crois qu'il a appris donc à connaître la Vierge Marie, à la prier. Et c'est ça qui marque la vie de Michel Guérin. C'est cette dévotion tendre et filiale qu'il avait pour la Vierge Marie. C'est ça qui va guider toute sa vie de prêtre ici à Pontmain.
Donc vous nous disiez tout à l'heure qu'il est né en juin 1801.
Oui, il est né le 8 juin 1801 à Laval, route de Tours. Il a été baptisé le lendemain, vraisemblablement à Saint-Vénérand. Il a vécu les premières années de sa vie, une vie heureuse, une vie en famille. Son père avait un métier assez dur, lavandier. Son père est mort jeune. Il est mort alors que Michel Guérin avait 14 ans. Et morte également une sœur aînée, Clémence. Et Michel Guérin va rester tout seul avec sa maman. La vie était assez difficile à ce moment-là. Très jeune, il manifeste le désir d'être prêtre. Mais pour pouvoir entrer au séminaire du Mans, puisqu'à Laval il n'y avait pas de séminaire, Laval n'était pas encore un diocèse, on va vendre la maison familiale.
Pour payer ses études au séminaire ?
Pour pouvoir entrer au séminaire et faire ses études. Il sera ordonné prêtre le 19 juillet 1829 par Mgr Jean-Baptiste Bouvier, évêque du Mans à l'époque. Le jour même, il reçoit sa nomination comme vicaire à Saint-Hélier-du-Maine, à 5 km de Pontmain. Il y arrive le 10 août suivant, et la fonction principale du vicaire de Saint-Hélier était de desservir la chapelle de Pontmain. Mais par un chemin quasi impraticable, fait d'ornières, de bosses, tellement mauvais ce chemin que les charretiers hésitaient ou même refusaient d'y risquer les pattes de leurs chevaux et les roues des charrettes.
On pouvait s'imaginer que ce n'était pas une affectation pour la première qui allait lui donner beaucoup de célébrité.
Eh bien, non évidemment, mais c'était là que l'évêque le nommait. C'est là que Michel Guérin va venir. Et alors, il venait donc à Pontmain quand il y avait aux nécessités. Surtout pour les sépultures, il y avait un petit cimetière autour de l'église, mais comme ce n'était pas paroisse, pour les baptêmes, les mariages, des actes officiels, alors il fallait que les gens de Pontmain aillent à Saint-Hélier. Et les habitants de Pontmain auraient bien aimé avoir un prêtre à demeure. Michel Guérin aussi aurait aimé cela, parce que ça lui aurait évité toutes ces allées et venues dans ce fichu chemin impraticable. De nombreuses démarches avaient été faites dans ce sens-là, mais aucune n'aboutira. Et puis la chapelle allait en se délabrant de plus en plus. La toiture toute trouée, laissant passer l'eau, le mobilier, les bancs, les autels, tout était complètement vermoulu, pourri. Lorsque Michel Guérin devait célébrer la messe à Pontmain, il était obligé de poser la pierre sacrée sur quelques planches sur des tréteaux. On avait scié une barrique par le milieu et il montait sur cette demi-barrique pour être vu de ses paroissiens lorsqu'il leur adressait la parole. Et la conclusion du vicaire général sera de dire à ceux qui l'ont accueilli « Mais enfin, vous demandez un curé, mais votre église est en ruine. À part la croix et la bannière, vous n'en avez pas pour deux sols d'objets ni d'ornements. » Et alors, c'est Michel Guérin qui va supplier son évêque de lui confier Pontmain. Il savait pourtant ce qu'il allait trouver. L'évêque savait aussi. Et il a accepté. Michel Guérin arrive donc à Pontmain le 24 novembre 1836. La première chose qu'il va dire à ses paroissiens, c'est « Dieu qui a tout fait, il veut que je sois totalement à vous. Désormais, c'est à la vie, à la mort avec vous. Vous pouvez compter sur l'entier dévouement de votre pasteur. » Ce n'était pas des paroles de circonstance, c'était vraiment le programme de vie de Michel Guérin. Toutes les années qu'il passera là, ce sera cela qu'il mettra en application. Devant cette ruine, le dimanche suivant, avec le conseil de fabrique qui était déjà renommé, et il va faire un appel à la population pour restaurer la chapelle. Alors dès le lundi matin, le 28 novembre, tout le monde va se mettre au travail, les uns à la toiture, les autres pour le reste. Et chose étonnante, on n'avait que des scies à main, ou quelques petits rabots, ou des choses de ce genre-là. Entre le 28 novembre et le 5 décembre, ils ont trouvé le moyen de fabriquer 29 bancs pour l'église. Pendant ce temps-là, les autres travaillaient sur la toiture. Les femmes faisaient des ornements, du linge d'autel, et à la fin de janvier, il note dans son diaire, dans son journal, eh bien que tout est restauré. Il y a un plancher neuf, il y a les 29 bancs neufs, il y a 3 autels.
Est-ce qu'il y a eu des donateurs importants pour pouvoir quand même acheter tout ce matériel, par exemple?
Eh bien, en 1837, il avait écrit à la reine pour dire qu'il était dans une petite paroisse, très pauvre. Alors, il demandait à Sa Majesté si elle aurait pu faire un petit geste. Et sa lettre a trouvé un écho favorable. La reine, avec une de ses dames de compagnie, qui avait été touchée également par cet appel, se sont réunies et ont envoyé un chèque de 130 francs. Et 130 francs de l'époque. Eh bien, c'est la seule aide que Michel Guérin aura pour tous les travaux, tous les autres travaux qu'il fera à l'église. De la commune, du département, de personne, il n'aura aucune aide. Quand il y avait des transports de pierres, de matériaux à faire pour des constructions, c'était les paroissiens. Ils répondaient toujours présents. Et on donnait aux des arbres. Par exemple, quand il avait bâti l'école pour les enfants, la pierre avait été donnée. Ce sont les gens de Pontmain qui l'ont transportée. Ils avaient donné aux des arbres pour les menuiseries, pour la charpente et tout cela. Il dira plus tard, en regrettant un peu de n'avoir eu aucune aide, qu'il n'y a qu'un Pontmain en France. Il n'y a qu'un Pontmain où l'on puisse entreprendre sans aucune aide, des choses aussi importantes, sans autre aide que celle de la divine providence. Il savait que les instruments de cette divine providence, c'était ses paroissiens. Michel Guérin avait fait de cette paroisse vraiment une communauté unie, une communauté de prière, puisqu'on y disait le chapelet tous les jours dans toutes les familles, mais surtout une communauté de cœur. Il aimait ses paroissiens l'aimaient.
on a l'impression que tout l'homme l'intéressait, la vie quotidienne des gens autant que leur âme.
Oui, exactement, parce que je pense que toute vie humaine, eh bien, il y a le côté prière, le côté service de Dieu, mais il y a également tout le matériel de chaque jour. Et par exemple, lui qui prisait, pour ne pas avoir trop loin à aller acheter son tabac prisé, il avait fait toutes les démarches pour qu'il y ait une recette buraliste. Il sera au départ de la création d'un bureau de bienfaisance. Il va demander que soit créée également une boîte postale pour pouvoir être en relation avec l'extérieur. Il fera des démarches pour que le chemin de Pontmain à Saint-Hélier soit amélioré. Il faut lire dans son dière sa correspondance avec le sous-préfet de Mayenne. Il faudra insister, il insistera. Mais il était très opiniâtre. Quand il s'était mis quelque chose dans la tête, il arrivait à ce qu'il voulait et n'était étranger à rien.
Il a créé une école aussi, il n'y en avait pas à l'époque.
Les enfants étaient un peu livrés à eux-mêmes. Et alors, en 1842, une dame de Fougères lui avait écrit pour lui dire qu'elle prenait en charge la construction d'un bâtiment d'école et de logement pour des sœurs. Alors, M. Morin et Mme Morin de Dutertre, des bienfaiteurs insignes de la paroisse, ont donné un terrain. Tout le monde s'y est mis à l'œuvre et l'école a été construite. Il y avait trois sœurs, des sœurs de Rillet. Alors, c'est elles qui sont venues ici, à Pontmain.
Vous êtes sur Fidélité Mayenne à Pontmain. Nous continuons d'évoquer la figure de l'abbé Guérin, curé de Pontmain au moment de l'apparition en 1871, en compagnie de son biographe ou presque, le père Henri Le Dauphin. Vous me disiez, mon père, que le souci principal de l'abbé Guérin, maintenant qu'on a un peu énuméré ses œuvres sociales, tout ce qui l'a intéressé autour de la vie quotidienne, son souci premier était donc d'amener les âmes à Dieu.
Eh bien oui, c'est le souci de tout prêtre. Et alors, lui, peut-être plus que tout autre d'ailleurs, parce que ces paroles qu'il avait dites le jour de son arrivée, justement, c'est cette fidélité à cette parole qui est étonnante, à Jésus par Marie. Et alors lui, qui avait tout jeune, qui avait été pris par cet amour de la Très Sainte Vierge, filiale, tendre, c'était une maman pour lui. Il a tout fait pour communiquer justement cette piété à ses paroissiens. À son arrivée à Pontmain, il avait offert à chaque famille une statuette de la Vierge. Et à partir de ce moment-là, dans toutes les familles, on priait le chapelet tous les jours, dans toutes les familles.
Le terrain avait quand même été bien labouré auparavant, non?
Le terrain, c'est peu de temps après la Révolution quand même. Alors il y avait une période qui avait été assez dure. Mais même pendant ce temps-là, il y avait eu quelques prêtres quand même qui avaient pu exercer un peu de ministère. On priait bien sûr, un peu comme tout chrétien peut le faire. Mais c'est lui qui va intensifier justement cette prière, d'abord par l'affiliation des paroissiens à l'archiconfrérie de Notre-Dame des Victoires, qui venait de se créer à Paris, donc peu de temps avant qu'il ne soit nommé curé, et puis alors donc ce fait d'avoir offert une statuette. Au mois de mars 1838, donc le 25 mars, il avait donc béni et mis en place cette statue de la Vierge à l'enfant au-dessus du maître-autel. Ensuite, il y avait eu la petite Vierge dans le clocher. il avait demandé l'autorisation pour diriger la confrérie du Saint-Scapulaire ou du Mont-Carmel à l'église de Pontmain. Il va octroyer cette érection et il va également instituer le mois de Marie à partir de 1845. Le mois de Marie consistait en ceci. Pendant le mois de mai, deux fois par jour, il y avait école bien sûr, les enfants venaient à l'église, priaient Marie, chantaient des cantiques et lui apportaient un petit bouquet de fleurs, matin et soir. Et c'est une dévotion, d'ailleurs, ce mois de Marie qui s'était répandu un peu aux environs.
Tout à fait ce qu'on fait à sa mère au mois de mai quand on a 6 ans.
Oui,
hein.
mais bien sûr, mais oui. Il n'a eu de cesse d'embellir son église. Rien n'était trop beau. En 1856, il va offrir à cette Vierge qui l'avait mise en place, il va lui offrir une belle couronne en cuivre doré. Évidemment, il ne pouvait pas lui offrir une couronne en or pur, mais enfin, il a fait tout ce qu'il pouvait. Mais avec des pierres précieuses, des pierres rouges et des vertes et blanches. Et peu de temps après, c'est l'enfant de Jésus, lui aussi, qui a eu droit à sa couronne. Lui-même, sur ses petits sous personnels, peut-être avait-il économisé un peu sur son tabac prisé, je ne sais pas, mais il avait offert un harmonium à plusieurs jeux. Alors ça rehaussait un peu quand même l'éclat de la célébration. Que je ne vous ai pas parlé de son presbytère, mais quand il est arrivé à Pontmain, ce qui aurait dû servir de presbytère, c'était également une ruine. Le soir où il est arrivé avec sa malle, avec quelques affaires dedans, il n'avait pas où la mettre, sa malle. Alors il a trouvé refuge dans une chaumière où on lui a consenti à lui louer ou à lui prêter une chambre. Et il habitait là pendant un certain temps. Lorsque sa maman était venue le rejoindre, quelque temps après son arrivée à Pontmain, elle avait partagé le même sort. C'est une bienfaitrice qui avait pensé en 1858 à loger un peu plus convenablement pour le curé de la paroisse.
Quelle humilité, hein ?
Jésus disait que les renards avaient une tanière, les oiseaux avaient un nid où mettre leur couvée. Le Fils de l'homme n'avait pas une pierre où reposer sa tête. Eh bien, le 24 novembre 1836, le soir, eh bien, Michel Guérin n'avait pas où reposer sa tête, ni où déposer sa malle. Il était aussi mal logé que son maître. Il fallait d'abord loger le maître, convenablement. On va se mettre tout de suite à l'œuvre pour que l'église soit remise en état, que ce soit accueillant. Et remarquez, il n'a même pas commencé par faire un autel. Non, lui, il a commencé par les bancs, pour que les paroissiens soient assis au moins quand ils viendraient à la messe.
L'homme comptait pour lui, hein.
Ah oui.
Dans tous ses aspects.
La personne humaine, il y a eu des moments pénibles, justement, dans la paroisse. Par exemple, en 1856, où il y avait une épidémie de typhoïde qui avait fait des ravages. Il y avait eu des quantités de morts. Il écrivait très très peu dans son diaire à cette époque-là, mais je pense que beaucoup de son temps, il le passait justement à aller voir ses paroissiens pour les soutenir, pour les réconforter. On n'avait pas de nouvelles de ces 38 jeunes. On vivait dans l'angoisse. Puis il y avait une autre épidémie de typhus et de typhoïde qui commençait à faire des ravages. Alors je pense que le plus clair de son temps, c'était prier, aller voir ses paroissiens, compatir à leur angoisse, à leur peine, quoi.
Est-ce qu'il y a des paroles, des expressions ou des moments à noter de ses homélies, par exemple, qui vous ont spécialement touché?
Dans ses homélies, il disait à ses paroissiens, au sujet de la Sainte Vierge, c'est notre mère à tous, nous sommes ses enfants, on doit lui obéir, c'est la patronne, elle est dans chacune de vos maisons. Elle doit être la patronne. Elle est dans le clocher aussi, parce qu'elle est la patronne de la paroisse. Elle veille sur nous. Alors, il ne fallait pas que ça se ralentisse. Hein. Et justement, le dimanche 15 janvier 1871, eh bien, il y a eu un petit ralentissement. L'après-midi, au Vêpres, Monsieur le curé s'était rendu compte qu'il y avait quelque chose. Il en avait fait la remarque à ses paroissiens. « Mes amis, vous n'avez pas prié comme d'habitude. » Et alors des paroissiens ont osé venir lui dire « À quoi bon prier, monsieur le curé? Dieu ne nous écoute pas et n'exauce pas nos prières. » Alors là, ils étaient complètement découragés, ils étaient au bout du rouleau, quoi. Et alors c'est là que Michel Guérin leur a dit « Allons les amis, chantons notre cantique à Marie. » Alors bon, avec des larmes plein les yeux, la gorge serrée par l'émotion, ils ont quand même chanté leur cantique « Mère de l'espérance ». Sans se douter que la réponse allait venir le surlendemain. Et quelle réponse, puisque c'est Marie elle-même qui l'apporte.
Au moment de l'apparition, l'attitude de l'abbé Guérin, il semble très ému et très discret. Est-ce qu'il écrira beaucoup de choses dans son dière?
Non. Non. Lorsque sœur Marie-Édouard va frapper à la porte du presbytère, « Monsieur le curé, venez vite chez les Barbedettes, il y a un prodige, les enfants voient la Sainte Vierge. » Le curé reste là, pétrifié, saisi par l'inattendu de cette nouvelle qu'on venait lui apporter. Il reste là, se sent bouger.
Mais il est pétrifié, je me suis dit, parce que justement, il sait que ça peut être vrai.
Peut-être. Si bien qu'il répond, un prodige, la Sainte Vierge, mais ma sœur, vous me faites peur. Et c'est sa bonne, la vieille Jeannette Potier, qui va le ramener à la réalité. Elle avait déjà commencé à allumer la lanterne pour sortir.
Est-ce qu'il avait écrit beaucoup de choses sur l'apparition, il avait juste relaté, sans émotion?
Sans laisser paraître ses sentiments, son émotion personnelle.
Il est aussi très modeste, parce que l'évêque veut le nommer chanoine.
Pour l'honorer, monseigneur vicaire, le nommé chanoine honoraire. Mais déjà, c'est après l'accident de Michel Guérin. C'est un accident assez grave, en voiture à cheval, oui. Monseigneur veut le nommer chanoine. La réponse de Michel Guérin est la suivante. Merci, monseigneur, le petit curé de Pontmain n'a pas besoin de ça pour mourir. Et alors, il devra quand même, le 13 mai, accepté d'être transporté du presbytère à l'église au prix d'énormes souffrances. Et l'évêque voulait lui remettre personnellement son camail de chanoine. Et il devait mourir d'ailleurs le 29 mai suivant à midi. Pour les paroissiens de Pontmain, ça a été vraiment une catastrophe, une très grande peine, quoi.
Il avait donc vu les 38 jeunes revenir, bien sûr.
Tout d'abord, ils étaient revenus 37. Le 38e, un peu moins chanceux, avait été fait prisonnier à la bataille du Mans. Mais un matin, alors que Michel Guérin s'apprêtait à célébrer une messe d'action de grâce, avec toute la paroisse réunie et les 37 qui étaient déjà rentrés, le 38e va arriver juste pour l'heure de la messe.
Il leur avait dit quoi quand il les avait bénis avant qu'ils partent?
Confessés, ils avaient participé à la messe, ils avaient communié. Monsieur le curé les a bénis spécialement avant de partir. Il leur a dit, n'ayez pas peur, vous reviendrez, mais surtout, vous n'oubliez pas la Sainte Vierge.
Moi, je parlais de certitude, mais vous vous dites, quelle confiance, parce qu'il leur a dit, vous reviendrez tous.
Ah ça, oui, oui, pour Michel Guérin, pour lui, s'il y en avait manqué un seul à l'appel, alors je crois que ça aurait été une catastrophe. Ça l'aurait touché, mais vraiment, personnellement.
Il était aussi exigeant avec le bon Dieu qu'il était exigeant avec lui-même?
Je pense, je pense que ce qu'il demandait, il devait aussi le demander avec insistance, avec la même insistance que pour les choses matérielles. Oui.
Est-ce que vous pensez que cela justifierait une demande en béatification ou une initiative de ce genre?
Eh bien, il n'y a pas encore eu d'initiative en ce genre. C'est possible qu'il se fasse quelque chose. Ça dépend de l'autorité ecclésiastique. Il mériterait certainement quelque chose. Quoique, dans son humilité, il n'en voudrait pas, non. Il n'en voudrait pas. C'est tout de même un curé qui avait marqué Pontmain à son époque et qui a tout de même préparé, sans le vouloir peut-être, sans le savoir, avec ses paroissiens, avec son petit peuple, on peut dire quand même qu'ils ont préparé la venue de Marie à Pontmain. Elle venait quand même un peu en pays de connaissance, là. Elle venait un peu chez elle. Elle venait chez elle.
Merci mon père pour cette évocation chaleureuse et aimante de l'abbé Guérin, j'ai trouvé. Au revoir mon père.
Au revoir.
Cette diffusion vous a été proposée en hommage au père Henri Le Dauphin, retourné au père en décembre dernier. Il évoquait pour nous en 2011 la vie de l'abbé Guérin, curé de Pontmain, au moment des apparitions de la Vierge Marie. Merci pour votre écoute.